ouvre cette émission avec ce navire fantôme qui suscite toutes les interrogations, toutes les inquiétudes. L'opération est en cours. Un commando de la marine est donc à bord de ce pétrolier au large de Saint-Nazaire, à quelques kilomètres des côtes françaises. Le parquet de Brest confirme la garde à vue du commandant du navire. À quoi joue ce bateau? S'agit-il d'une provocation de la Russie? On fait le point ce soir avec Guillaume Lascon-Jarias. Bonjour, merci d'être avec nous. Historien militaire, professeur à la Sorbonne Université, ancien chargé de recherche à la division de la recherche du Collège de défense de l'OTAN, avec Adina Révol, bonsoir, merci d'être avec nous, politologue et auteur de Rompre avec la Russie, avec le général Vigilant, merci d'être avec nous, bonsoir, général, Ulysse Gosset, évidemment, et Bruno Gédy, éditorialiste politique, et Didier François, consultant défense pour BFM TV. Alors, on va revenir évidemment avec vous, Samy, sur le trajet de ce bateau qui pose question, effectivement, qui est très mystérieux. Mais d'abord, Didier François, il faut revoir les images de ce commando de la marine qui a abordé, quel est le mot, sur
oui,
ce bateau?
Oui, en fait, c'est un droit de visite.
Droit de visite.
Les mots sont extrêmement importants dans cette affaire. Pourquoi? Parce qu'on veut rester vraiment dans le cadre du droit. Et l'idée, c'est justement d'éviter de pouvoir dire que les Russes aillent crier partout. Vous voyez, les Occidentaux, c'est toujours pareil, deux poids, deux mesures. Quand ils ne veulent plus respecter le droit de navigation, etc. Donc, on est bien dans un cadre où, mais ces images sont fortes, on voit une détermination politique à appliquer le droit et une capacité militaire à le faire grâce à nos commandos marines.
Décrivez-nous ces images, parce que quand même, donc ce sont des comment on dit, un commando, c'est ça, de la marine, des forces spéciales, des militaires qui sont cagoulés, armés.
Général Vigilant vous l'expliquera ça très bien. Mais...
Général, à quoi ça correspond? Quels sont les types de forces utilisées par cette marine?
Alors, donc la marine nationale a des forces, des fusiliers marins et des commandos de marine, dont une des missions est de faire des visites à bord des bateaux qui sont suspects. Donc, enquête de pavillon, c'est le cas présent. On avait un doute sur la réalité du pavillon qui était arboré par ce bâtiment. Et après enquête, on s'est rendu compte qu'effectivement, le pavillon ne correspondait pas à la véritable nationalité du bateau. Et donc là, on est dans le cadre d'une nation...
Le pavillon étant donc un pavillon du Bénin, et c'est qu'effectivement, ça. C'était un faux pavillon.
Et que le bateau a changé plusieurs fois de nom dans les dernières semaines. Et donc, en fait, nous sommes ici dans le cadre de l'action de l'État en mer. Donc c'est une des missions régaliennes qui, en France, est réalisée par la Marine nationale sous l'autorité du préfet maritime et en ayant un cadre juridique, en l'occurrence le procureur de Brest, a donc ouvert une enquête pour aller déterminer si le bâtiment respecte le droit international maritime, ce que l'on suspecte de ne pas être le cas.
Didier, une dernière question, c'est assez inédit quand même, voire même assez hallucinant de voir quand même un commando sur un navire russe tout près des côtes françaises. C'est pas banal. Non,
honnêtement, c'est pas banal et c'est vraiment un message. C'est là qu'on voit qu'effectivement, on leur dit vous arrêtez. Vous arrêtez, franchement. En plus, venir comme ça... Alors, officiellement, il partait de Primorsk, où, en Russie, où il avait pris du pétrole pour aller le donner en Inde. Et puis, les Danois avaient des petits doutes sur lui, ce qui n'est pas notre cas, mais enfin, ils nous en parlent, donc on va regarder. Et quand il passe la Bretagne, paf, il vient sur Saint-Nazaire. Enfin, Saint-Nazaire, c'est quand même l'endroit où on fabrique tous nos navires. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de jouer,
En tout cas, il y a une réponse... ferme ce soir. Samy, faites-nous ce trajet. Alors, d'où vient ce bateau et pourquoi est-ce qu'on l'a suspecté?
Comme le disait Didier à l'instant, c'est vrai que l'affaire est suffisamment grave et sérieuse, d'ailleurs, pour être suivie de très près en direct par le président de la République. Ça fait plusieurs jours, en fait, que ce bateau navigue à proximité des côtes françaises au large de Saint-Nazaire. En fait, il fait très probablement partie, ce navire, de cette flotte fantôme qu'on va détailler dans un instant. On parle de plusieurs centaines de bateaux. Alors, on n'est pas véritablement certain du chiffre. Entre 500 et 800, selon les estimations, qui servent à transporter en fait de façon illégale le pétrole que la Russie souhaite vendre en contournant les fameuses sanctions. L'inquiétude des Européennes, c'est que l'on pense que ces navires fantômes sont utilisés également sur d'autres missions. On parlait également de la section de câbles sous-marins stratégiques pour les Européens, pour les Américains, mais pour évidemment l'ensemble finalement du globe. Mais regardez finalement le parcours de ce navire. Il part de ce port, le port de Primorsk, le 20 septembre dernier, pour retrouver deux jours après, entre le 22 et le 24 septembre, pardon, eh bien, à proximité des côtes danoises. On va regarder en détail, justement, ces côtes danoises. Que s'est-il passé le 22 septembre? Eh bien,
L'Europe entière en a parlé.
Absolument. Hasard du calendrier ou alors véritable stratégie. C'est vrai que c'est à ce moment-là que les premiers drones ont survolé le ciel du Danemark, avec notamment ces drones au-dessus de l'aéroport danois.
Créant une panique, une psychose
des Européens, à tel point d'ailleurs que les Européens ont déployé des moyens supplémentaires pour venir en aide aux Danois. Mais c'est vrai que ce navire est suspecté de faire partie de cette liste de 4 navires qui étaient à proximité de Copenhague au moment où ces drones ont survolé l'espace aérien danois. Ces mêmes navires qui sont suspectés, je le disais, d'avoir endommagé des câbles sous-marins. Et on rappelle, vous le disiez à l'instant, que ces commandos marines étaient montés à bord. J'ai retrouvé quand même un chiffre qui est important de dire pour montrer la stratégie et l'importance de ces pétroliers russes. Près de 70% du pétrole russe transite aujourd'hui par ces navires clandestins, cette flotte fantôme. Donc ce n'est pas que pour impressionner, c'est aussi économiquement un enjeu stratégique.
En fait, c'est leur ligne de vie pour financer la guerre en Ukraine. 70% du pétrole, encore une fois, personne ici n'a de téléphone, de voiture, des trop méga jets russes. Les Russes, ils vendent du pétrole et des armes. Les armes, maintenant, ils les utilisent. Et c'est le pétrole qui les fait vivre et c'est le pétrole qui finance la guerre. Donc honnêtement, 70% essentiellement acheté par les Chinois, les Indiens et les Turcs. Donc oui, c'est fondamental
pour eux. Et quelques Européens.
Et alors après,
on y reviendra.
Ouais, je parlais de les masses. Hein.
Évidemment. Oui, Maxime Kliériza, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Journaliste police-justice pour BFM. Ce qui est important, c'est que ces forces de la marine ont convoqué 2 personnes qui sont en garde à vue, et notamment le commandant du bateau.
Alors, ce n'est pas convoqué. Elles ont bien été interpellées, ces 2 personnes.
Pardon.
D'après le procureur de la République de Brest, ce sont 2 personnes qui se présentent. On utilise là le conditionnel presque, puisqu'on se fie qu'à leur propre déclaration, qui se présente comme étant le commandant de ce navire ainsi que son second. Ces 2 interpellations, elles font suite à une enquête qui a été ouverte un petit peu plus tôt par ce même parquet pour défaut de justification de nationalité du navire et refus d'obtempérer. Ce que l'on apprend également du parquet de Brest, c'est que c'est le préfet maritime de l'Atlantique qui a signalé auprès du parquet de Brest des délits maritimes, et ces faits, ils ont été signalés dès le 29 septembre, autrement dit dès lundi. Le parquet qui a donc ouvert dans ce sens une enquête préliminaire.
Merci Ulysse Gosset. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire? À votre avis, que faisait ce bateau ici? Est-ce qu'il pourrait avoir espionné les côtes françaises? Est-ce qu'il se préparait une nouvelle opération pour peut-être lancer des drones au-dessus de la France? Quelles sont les hypothèses sur la table ce soir?
Alors d'abord, je pense qu'il faut signaler le jour où a lieu cette affaire, c'est-à-dire le moment où se réunissent à Copenhague tous les Européens pour un sommet dit de défense, un sommet informel au cours duquel on va examiner toutes les options possibles pour mettre fin aux incursions des drones sur les territoires de plusieurs pays européens, à commencer par la Pologne, la Roumanie, mais aussi le Danemark, la Norvège. Et donc, ça n'intervient pas par hasard. C'est vraiment le moment où il fallait adresser un signal fort. Que faisait ce bateau-là? Alors, il était en route, effectivement, depuis un certain temps, mais il avait déjà été signalé par le Danemark comme ayant un comportement suspect. Pas simplement un problème de pavillon. On se demandait à l'époque au Danemark si ce bateau n'était pas simplement de la flotte fantôme, mais l'un des bateaux qui permettrait à des drones de décoller pour aller justement envoyer des drones, notamment vers l'aéroport de Copenhague.
Une base de lancement.
Et sur ce point précis, il faut être prudent, une base de lancement mobile, sur mer. Parce que les drones, en général, ils viennent plutôt de Russie ou de Biélorussie, c'est-à-dire des terres de l'intérieur. Là, c'est un nouveau système qui est assez original et auquel on n'avait pas forcément pensé, mais qui a été repéré depuis presque un mois par les Occidentaux et par l'OTAN en particulier. Et il y a des bateaux qui ont été identifiés, des cargos russes, qui ont servi à ce genre d'affaires. Celui-là, ce n'est pas démontré. Il faut être prudent. Qu'est-ce qu'il faisait au large de Saint-Nazaire? Ce qui est très bizarre, c'est, comme on l'a vu sur la carte, qui nous a été montré tout à l'heure, c'est qu'il bifurque subitement à angle droit pour aller vers Saint-Nazaire. Pourquoi? C'est pas du tout son trajet pour aller en Inde. Et c'est là où il y a quelque chose de totalement anormal. D'où l'alerte lancée par le préfet maritime qui a dit il faut lancer une enquête de pavillon sur ce navire suspect. Alors pourquoi allait-il vers Saint-Nazaire? On l'a vu tout à l'heure, on le disait, Saint-Nazaire, c'est pas n'importe où, c'est là où sont basés un certain nombre de chantiers maritimes, où il y a des sous-marins nucléaires, des bases stratégiques, donc c'est une région qui est extrêmement sensible. Et avoir un bâtiment qui s'approche de Brest ou de Saint-Nazaire, c'est toujours une alerte. Il faut rappeler que les Russes ont déjà envoyé non pas des bateaux, mais des avions survoler cette région et qu'ils ont été rappelés à l'ordre par des rafales français qui leur ont intimé l'ordre de quitter les lieux. Et sans incident majeur, mais quand même, c'était à chaque fois une petite épreuve, parce que les Russes essaient de tester à chaque fois leur capacité à intervenir dans l'espace aérien ou ailleurs. Donc là, on a un bateau qui intervient dans les eaux internationales, il faut le préciser. L'affaire a commencé, il était toujours dans les eaux internationales. Et la question qui peut être posée, c'est a-t-on le droit d'obtenir une visite lorsque le bateau est sur les eaux internationales? La réponse est oui, lorsqu'il y a une enquête de pavillon et qu'il est démontré que ce navire a un comportement suspect. Mais quand le capitaine a refusé l'enquête et la visite, eh bien c'est là où sont intervenus les commandos de marine.
Alors, Guillaume Lasconjarias, historien militaire, quel est effectivement, en termes de droit, en termes de doctrine, effectivement, à quel moment ce navire suspect devient hors la loi?
Moi, je serais bien en peine parce que je suis pas juriste, donc c'est peut-être la question du code maritime qui se pose. Non, ce qu'il faut bien observer en réalité, c'est ce qu'on appelle les patterns, c'est-à-dire en gros les tendances et la manière dont c'est hors ou justement quand c'est hors norme. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'est cette capacité soit à rester longtemps sur une zone où il a pas de raison d'être, soit de ralentir alors que finalement il n'a pas de raison de le faire non plus, de changer son immatriculation sans changer, cela dit, son code AIS. C'est aussi un point intéressant, c'est-à-dire que tous ces navires-là, normalement, naviguent avec une identification, ce qu'on appelle l'AIS, qui permet finalement de les suivre. Là, il ne l'a jamais éteint, donc c'est une sorte de transpondeur. En revanche, il change de pavillon comme ça, comme de chemise. Il commence comme étant finalement sous pavillon Malawi, puis ensuite il passe sous pavillon béninois et il peut encore changer. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie difficulté, y compris au regard du droit maritime, c'est cette espèce de changement permanent qui nous met nous-mêmes dans l'incertitude et en fait qui ralentit nos procédures. Il faut bien comprendre que face à un cas qui n'est pas simplement une question de droit, qui est une arsenalisation du droit, ce qu'on appelle le lawfare, et que l'on retrouve finalement dans toutes ces pratiques de, très largement, de guerre hybride, c'est-à-dire de nous attaquer sous le seuil. On n'est pas dans un état de guerre, on n'est pas dans un état de paix, on est dans une espèce de zone grise, comme disent les Américains. Et cette zone grise, en fait, aujourd'hui, elle se rapproche de plus en plus de chez nous.
Alors, la zone grise, elle fait quand même 244 mètres de long, oui. Ce pétrolier. Effectivement, c'est pas un hasard, vous le disiez, Ulysse, qu'il est là. C'est même une provocation, si on s'approche si près, Didier François, quand même. Oui, on veut montrer, c'est-à-dire qu'on veut taquiner, on veut aller chercher quand même la France, non?
C'est bien pour ça qu'on a réagi et qu'on a réagi fort.
Alors,
surtout que, en fait, là aussi, donc on parle donc de pattern, donc de tendance ou d'habitude, on voit bien qu'il y a une espèce de montée en puissance pour un peu nous tester. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est bien qu'on réagisse de manière calme et explicatif. Parce que un des buts recherchés, c'est justement un peu de nous faire paniquer sur est-ce que, bah oui, on contrôle, on vous voit. On vous suit, et quand il faut agir, on trouve les bonnes solutions. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est allé sur la question du pavillon. Parce qu'en fait, on sait bien que seul le pavillon, on n'a pas commencé à parler des drones, on n'a pas commencé à parler de ci, de ça. En fait, on n'en sait rien, on verra bien. Mais en revanche, il y a une chose qui est sûre, vous voulez jouer avec nous, eh ben, vous n'êtes pas dans les règles. Parce que votre pavillon, ça ne marche pas. Et là, ça nous donne le levier pour pouvoir agir.
C'est et
ça
on a entendu fait, en fait. Très bien le président de la République depuis le Danemark, effectivement, monter le ton.
Nous sommes dans une confrontation avec la Russie, qui depuis plusieurs années est un acteur très agressif dans notre espace informationnel, on l'a vu, dans le cadre des élections comme ailleurs, qui multiplie les attaques cyber, qui évidemment a lancé une guerre d'agression en Ukraine, qui utilise la menace nucléaire et qui aujourd'hui, on le voit bien, provoque dans des espaces aériens. Tout ça est un ensemble hybride qui est dans le champ de la confrontation.
Bruno, je dis, ce qui est intéressant dans la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a aussi rajouté, conformément à la doctrine de l'ambiguïté stratégique, je peux vous dire que que rien n'est exclu s'il y avait un nouvel avion qui devait effectivement faire une incursion dans un ciel aérien. On voit bien que d'habitude, la France se contente, si je puis dire, de convoquer un ambassadeur russe, par exemple, pour montrer un peu la fermeté. Mais là, eh bien, il y a un commando qui est allé sur ce bateau. C'est un changement de doctrine, quand même.
Alors d'abord, dans les mots, ce n'est pas un changement de doctrine, parce que Macron le dit quand même depuis cet hiver, la menace est réelle, nous sommes en confrontation avec la Russie, et les opinions doivent se rendre compte qu'un État, une grande puissance, essaie de s'ingérer dans la vie politique d'un pays, dans la vie informationnelle. Ça, il le dit depuis cet hiver. Alors, c'est plus ou moins entendu, il y a même beaucoup, même une partie encore de la classe politique qui peut nier ce fait, mais il existe. Ce qui change ce soir, c'est que cette fois-ci, il dit, en gros, aux Russes, le message envoyé, c'est « on sait ce que vous faites ». On sait que vous contournez les règles internationales de commerce et que surtout les sanctions qui sont mises en place. Et ce soir, avec ce qu'on a fait, on vous met à découvert. Et c'est ce que détestent le plus au fond les Russes, c'est de se retrouver dans la situation où on expose exactement ce qu'ils font.
Et on agit quand même.
On agit parce qu'évidemment le symbole des commandos marines sur ce bateau tranche avec. Peut-être ce que l'OTAN a laissé faire ces dernières semaines, le survol de l'espace aérien estonien, le survol de l'espace aérien polonais. L'affaire danoise est un peu plus floue parce qu'on ne sait pas exactement si c'était de même nature. Mais ce qui est certain, c'est que le président français, dans cette affaire, agit un peu en responsable... en leader un peu européen et aussi d'un pays important de l'OTAN pour envoyer un message clair, net aux Russes qu'ils ne pourront pas continuer le petit jeu à dire on va où on veut, on rentre dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel espace aérien, dans n'importe quel...
Il faut préciser quand même que c'est pas seulement la France qui
a fait ça. C'est pas seulement la France, ce que j'allais dire. C'est que
la Pologne l'a fait, l'Allemagne l'a fait, le Danemark l'a fait, tous les pays européens le font et l'Allemagne a même dit qu'elle était prête à battre un avion russe s'il franchissait l'espace aérien allemand. Les Polonais l'ont dit à plusieurs reprises.
Mais c'est très récent.
Oui, c'est récent.
C'est très récent.
Il y a vraiment un changement
d'attitude. Ça.
Général, vous voyez aussi effectivement un changement de doctrine ?
Alors, ce que l'on voit, c'est que les Russes sont en difficulté dans leur guerre conventionnelle contre les Ukrainiens. Et donc, ce faisant, ils essaient de, en quelque sorte, détourner l'attention en augmentant l'intensité de leurs stratégies hybrides à l'encontre des pays européens qui soutiennent l'Ukraine. Et donc, il y a une corrélation très nette entre les annonces qui ont été faites au Danemark d'acheter des armements et de faire des productions spécifiques conjointes avec les Ukrainiens et le fait qu'il y ait des drones qui aient survolé le Danemark. Donc, en fait, le déploiement de ces stratégies hybrides, la meilleure façon d'y répondre, c'est de les identifier et de faire de l'attribution, qui est bien sûr une responsabilité politique. Mais il faut marquer, effectivement, comme ça a été très bien dit par Didier François, il faut marquer aux Russes que nous les voyons, que nous savons ce qu'ils font et que nous ne sommes pas dupes.
Au risque peut-être d'entraîner le conflit dans une escalade, Adina Revol ?
Écoutez, ce que fait Vladimir Poutine, c'est pas du tout nouveau. C'est la tactique du salami qui est la tactique du Kremlin et de la Russie depuis 1944. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est juste qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la Russie est à l'intérieur de la Russie. Donc, le fonds souverain russe qui est nourri par le revenu pétrolier est presque sec. En Ukraine, sous le terrain, l'armée russe n'avance plus. Donc, Vladimir Poutine veut faire peur aux opinions occidentales. C'est pour ça qu'il déploie des drones. Il veut nous faire peur parce que la plus grande faiblesse de l'Union européenne, c'est son unité. Et donc, s'il fait peur à nos sociétés, il pense que justement, les opinions publiques vont faire de pression sur les gouvernements pour ne pas aider davantage l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se joue, c'est la victoire de l'Ukraine. Et deuxième point, on parle beaucoup des images et des images assez impressionnantes, mais je crois que la France doit arrêter la stratégie du « en même temps ». Parce que les images sont impressionnantes, mais en parallèle, la France continue à acheter du gaz russe. C'est le premier importateur de gaz russe en Europe. Et donc, le gaz russe, ça fait payer la guerre en Ukraine. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et après, on a quand même une cinquième colonne bien nourrie en France. Il y a des journalistes qui, soi-disant, qui officient sur des chaînes concurrentes. Qu'est-ce qu'on fait ? L'ancien ambassadeur Orlov, qui est toujours en France. Donc, vous voyez, quand Vladimir Poutine, depuis le Kremlin, voit tout ça... il se moque un peu, en fait, finalement, des images qu'on peut envoyer à l'opinion publique française.
On va revenir sur, effectivement, vos affirmations du fait que la France ne soit pas assez sévère avec Vladimir Poutine et que, selon vous, il faudrait encore hausser le ton. On revient dans une poignée de minutes pour parler donc cette opération en cours, l'armée française à bord du navire fantôme de Poutine. On revient dans une minute. 22h30 sur BFM TV, bienvenue si vous nous rejoignez dans Grand Soir BFM. Ce soir, on continue à parler de cette opération en cours qui concerne un navire, un pétrolier russe. Des commandos de la marine française sont à bord du Pushpa. Regardez ce navire fantôme russe. Que faisait ce pétrolier au large de Saint-Nazaire? Il a quitté la Russie le 20 septembre à destination de l'Inde. Une présence qui soulève naturellement énormément d'interrogations, d'inquiétudes. Une semaine après que des drones aient été signalés au-dessus de plusieurs villes. Regardez ce reportage signé Julien Migaud-Miller et Simon Terrassier.
Depuis 48 heures, il erre dans les eaux internationales au large de Saint-Nazaire. Son nom, le Pushpa. Des militaires français sont montés à bord aujourd'hui. Il est désormais sous le contrôle de l'armée française qui procède à des vérifications. Car il soupçonne ce pétrolier de 244 mètres, battant officiellement pavillon béninois, d'être en réalité un navire lié à la flotte fantôme russe.
Ce navire, il date de 2007, il s'appelle le Pacific Apollo lorsqu'il était matriculé à Hong Kong. Il va changer un nombre incalculable de fois de nom, mais aussi de pavillon. Il fait en fait le tour des pavillons de complaisance qui vous permettent en fait de payer assez peu cher d'impôts. Il est passé par exemple par le pavillon de la Mongolie. La Mongolie, c'est à 2000 km de la mer.
Aujourd'hui, ce navire intrigue, inquiète et interroge. Que fait le Pushpa si près des côtes françaises? Et quelle cargaison transporte-t-il réellement?
Ça reste un pétrolier qui va quand même faire un certain nombre d'allers-retours entre des ports russes et des ports indiens. On tombe vraiment dans le cas typique du transfert de pétrole et qui se soustrait aux sanctions de la Russie vers l'Inde.
Le Pushpa a quitté la Russie via le port de Primorsk le 20 septembre dernier, direction le port de Vadinar en Inde. Deux jours plus tard, le 20 septembre, il arrive en mer Baltique et pendant plusieurs jours, le navire contourne le Danemark. Une période qui coïncide avec l'apparition de drones mystérieux dans le ciel danois. D'abord repérés au-dessus de l'aéroport international de Copenhague, puis, nuit après nuit, au-dessus d'aéroports régionaux et bases militaires stratégiques, obligeant les autorités à fermer à plusieurs reprises l'espace aérien du pays. Jamais intercepté, jamais identifié. Alors, simple coïncidence ou manœuvre orchestrée, le Pushpa a-t-il joué un rôle dans cette mystérieuse opération?
Il fait partie d'une liste de 4 bateaux russes qui ont été aperçus à proximité des côtes danoises et qui sont suspectés, au moins pour certains d'entre eux, d'avoir servi de base de lancement à ces drones. Ce qui est effectivement plus facile pour les Russes de les utiliser comme ça plutôt que d'avoir des équipes au sol au Danemark.
Dans la nuit du 27 au 28 septembre, il semble s'éloigner des côtes européennes. Mais il change brutalement de cap et se rapproche de Saint-Nazaire. Face à cette situation, le parquet de Brest a ouvert une enquête préliminaire pour défaut de documentation de la nationalité et refus d'obtempérer.
Ça manifeste la présence et la réalité d'un phénomène qu'on décrit, qu'on dénonce depuis longtemps, qui fait partie des sanctions que nous prenons. C'est la lutte contre ces fameuses flottes fantômes qui financent, selon nos évaluations collectives, 40% de l'effort de guerre russe.
Emmanuel Macron se trouve justement au Danemark, un déplacement prévu de longue date pour un sommet européen. À l'ordre du jour notamment, Moscou et la menace insidieuse qu'elle continue de faire peser sur l'Europe. Autour de la table des chefs d'État et de gouvernement, une idée désormais centrale, bâtir un mur anti-drone pour protéger l'Europe.
Et cet après-midi, des militaires de la marine française sont montés à bord de ce bateau. Didier François, vous dites droit de visite, effectivement. Et deux personnes sont en garde à vue ce soir. On va revoir les images assez impressionnantes quand même de ces militaires en treillis, cagoulés et armés.
Oui, alors c'est typiquement à partir du moment où le navire refuse d'obtempérer aux demandes qui sont faites par le patrouilleur qui le suit, alors qu'il y a un doute sur la réalité de son pavillon, puisqu'il affichait un pavillon béninois avec le Bénin, dit que pas du tout, il n'est pas chez eux, et que le procureur demande à ce qu'on puisse il a bien fallu faire intervenir. En droit de visite, c'est bien ça la règle internationale. Donc c'est l'article 110 qui prévoit comment on peut intervenir en haute mer dans les eaux internationales. Et donc les commandos marines qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle le contre-terrorisme à la mer, c'est quand même assez technique. La capacité de pouvoir aborder un mastodonte de cette taille. Alors il faut imaginer quand même, heureusement la mer est calme, mais imaginez les gars dans un petit zodiaque à côté de l'espèce de d'immeuble de 244 mètres de long et de hauteur, qui doivent envoyer les grappins, monter, prendre le truc et coiffer l'affaire, s'assurer de la sécurité, ne sachant pas ce qu'il y a derrière pour de vrai, puisque de toute façon, les gars, au départ, ne voulaient pas obtempérer. Donc c'est quand même, c'est pas un sport de masse, mais je pense que le général vigilant pourra vous en parler.
Opération réussie, là, pour
absolument,
le coup.
Absolument, et c'est tout à l'honneur de nos commandos de marine qui sont de très grands professionnels et de superbes combattants. Et ils l'ont encore montré dans cette opération parfaitement maîtrisée.
Mais ils ont dû avoir l'accord des Béninois pour pouvoir
oui,
monter.
Oui, alors en fait, quand il y a une enquête de pavillon, quand il y a une enquête de pavillon.
Mais c'est pour ça qu'ils ont pu intervenir, non?
Alors, réponse général vigilant,
quand il y a une enquête de pavillon, la France va demander au pays du pavillon si elle peut, enfin, s'il garde son droit sur ce bateau ou s'il délègue son droit. Et dans le cas présent, comme le bateau n'appartient pas au Bénin, le Bénin dit je délègue mon droit droit de l'aspect légal. Donc, et à partir de là, la France peut conduire des actions de justice, enfin en tout cas de visite et de recherche d'activités illégales sur ce bâtiment en coordination avec l'état de pavillon.
En tout cas, général, ce qui est intéressant, c'est que là, on sort du déclaratif. C'est-à-dire qu'en général, effectivement, il y a une rhétorique des mots. C'est-à-dire, nous sommes en confrontation avec la Russie, nous allons élever le temps, il y aura des réponses, etc. Mais là, pour la première fois, physiquement, concrètement, on monte sur un bateau.
Moi, je pense on fait juste ce que vous. On en parle aujourd'hui parce que il y a des circonstances particulières. La marine fait ça tous les jours aux Antilles sur le trafic de drogue ou ailleurs sur le territoire français. Ils font la même chose.
Comment? Elle parle de l'Ukraine.
Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce droit de visite, la prise de vis force d'un bateau, c'est quelque chose que notre marine nationale fait régulièrement parce que c'est pas la première fois qu'on a un bateau. Qui a un comportement suspect dans les eaux.
Et pourtant, Ulysse, il y a eu des incursions, des violations de ciel aérien, par exemple au-dessus de l'Estonie, etc. Là, pour le coup, on n'a rien fait, donc il ne faut pas comparer.
On est dans une séquence, si vous voulez, au mois de septembre, qui restera effectivement dans l'histoire, avec en arrière-plan la guerre en Ukraine. Poutine a décidé effectivement d'essayer d'intimider, d'effrayer les opinions publiques françaises et de tester la capacité de réaction des forces polonaises, danoises éventuellement, mais surtout des pays baltes et même de la Roumanie, et en fait en testant l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Il y a eu des réactions, contrairement à ce que vous dites. Quand il y a eu par exemple un survol de 18 ou 19 drones qui ont franchi les frontières polonaises, 23 polonaises et roumaines, il y a eu des chasseurs norvégiens qui sont intervenus très rapidement, qui ont d'ailleurs abattu quelques drones. Il y a eu le déploiement d'un AWACS au-dessus de la région.
On a envoyé des rafales,
voilà,
évidemment.
La France a envoyé des rafales qui étaient déjà positionnées dans la région. La France, d'ailleurs, qui a déjà aussi envoyé, il faut le rappeler, un détachement de 35 personnes, 35 militaires avec un hélicoptère. Donc, il y a eu des réactions. C'est dans ce contexte-là, si vous voulez, qu'intervient cette visite, entre guillemets, forcée sur le bateau. Mais on voit bien qu'il y a eu une volonté de Poutine, une stratégie de déstabilisation. Et là où c'est intéressant, c'est que son pari échoue. On le voit très bien. D'abord parce que les pays de l'OTAN se mobilisent, qu'ils réagissent, ils se concertent. L'OTAN va revoir ses règles d'engagement. L'Allemagne dit effectivement qu'elle est prête à abattre un avion russe s'il franchit l'espace aérien allemand. La France dit, par la voix de son président, rien n'est exclu. Et on arraisonne un bateau au large de Saint-Nazaire en envoyant des commandos marines. C'est effectivement un changement assez visible destiné à montrer à Vladimir Poutine qu'il est temps d'arrêter ses provocations. Est-ce que Poutine, maintenant, va trouver une autre façon d'agir? On verra. Mais ce mois de septembre restera comme une forme de prise de conscience collective après plus de 2 ans et demi de guerre, près de 3 ans de guerre, et avec la nécessité de ne pas laisser les choses se faire sans réagir.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même encore une partie des Français qui n'ont pas encore conscience de cette menacerie russe. On a souvent coutume de dire il n'y a pas encore de chars russes sur les Champs-Élysées. Mais là, nous sommes en duplex avec Laura Cambeau de Saint-Nazaire. Eh bien, les habitants prennent conscience un peu de cette menace un peu plus concrète. Vous avez pu vous entretenir avec des habitants de Saint-Nazaire qui sont quand même assez choqués par cette histoire de navire.
Oui, les habitants que nous avons croisés toute la journée avec Bastien Dufour se pressent d'ailleurs sur cette plage de Pornichet où nous sommes à seulement quelques dizaines de kilomètres de ce navire russe qu'on peut apercevoir quand il fait jour. On voit ce navire très clairement à quelques dizaines de kilomètres derrière nous et en effet, il y a beaucoup de curieux qui sont venus aujourd'hui se presser pour tenter d'apercevoir ce navire. Nous avons même rencontré une femme qui nous disait qu'elle habitait juste à côté d'ici et puis que tous les jours, elle prend ses jumelles et qu'elle vient regarder ce navire et notamment sa coque orange. Voici ce qu'elle nous a raconté. Elle nous explique qu'en effet, depuis dimanche, elle constate qu'il ne bouge pas. Ce soir, nous avons rencontré Guillaume. Il nous explique son point de vue. Écoutez.
J'étais en voiture et j'ai un collègue de travail qui m'a dit qu'il se passait quelque chose à Saint-Nazaire, que apparemment un bateau russe était il y avait des otages. Non, il y a pas des otages, pardon. Il m'avait expliqué qu'il y avait les policiers qui embarquaient sur le bateau russe parce qu'apparemment il y avait des drones qui étaient envoyés depuis Saint-Nazaire vers le Danemark, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc après j'ai écouté la radio et j'ai entendu ça effectivement. Voilà, donc j'étais assez surpris.
Voilà Guillaume que vous venez d'entendre qui nous explique qu'il ne tombe pas dans la paranoïa mais qu'il reste attentif à l'évolution de la situation. Plus globalement, toutes les personnes que nous avons croisées se demandent ce qu'il va se passer, ce qu'il va advenir aux suites des 2 gardes à vue qui sont actuellement en cours pour voir si cette garde à vue et plus généralement si la patrouille, la visite qui a eu lieu sur ce navire permettront d'en savoir plus, savoir ce que fait ce navire probablement russe ici à Saint-Nazaire et puis également comprendre s'il était impliqué dans le cas de survol de drones au Danemark.
Merci Laura Cambeau, accompagnée de Bastien Dufour. Guillaume Lascon-Jarias, quel est le but finalement de la part du Kremlin de susciter une inquiétude, une angoisse et si jamais le Kremlin était derrière l'affaire des drones au Danemark, de créer une forme de psychose dans la population européenne?
On peut l'analyser de 2 façons. D'abord, Ulysse Gosset l'a rappelé, c'est une forme de séquence globale. Donc il faut la voir en fait à l'échelon ou à l'échelle de la totalité de l'Europe. C'est-à-dire, il ne faut pas dissocier les théâtres. Ce qui se passe en Roumanie, ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe dans les pays baltes, c'est finalement l'ensemble d'une même séquence. En revanche, ce que l'on peut observer, c'est que Poutine ne réussit pas dans sa guerre effectivement en Ukraine. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de gérer ce qu'on appelle l'escalade verticale. C'est-à-dire, tu me donnes un coup, je t'en redonne un. Voilà. Donc, en fait, il cherche à contourner et ce que l'on appelle finalement de l'escalade cette fois horizontale. Tu me fais quelque chose en Ukraine, ok, je réponds finalement dans les pays baltes, en Roumanie ou en Afrique. C'est-à-dire, en fait, le plateau de jeu, ce n'est pas simplement l'échelle de l'Europe ou l'Ukraine, c'est l'ensemble du monde. Et donc, ici, finalement, on cherche 2 choses. À briser la cohérence et l'unité des Européens en les testant, mais en les testant de 2 façons, militairement et politiquement. Politiquement, ça échoue parce qu'on voit bien que l'unité, finalement, au moins pour l'instant, est plus que de façade. Les Européens résistent et se tiennent. Et là, la séquence, elle n'a pas commencé il y a quelques jours. Elle a commencé en réalité au mois de juin et juillet, lorsqu'on a eu le sommet de La Haye, avec les Européens qui se sont engagés à porter leurs dépenses militaires à 5% de leur PIB. C'est une marche magistrale. Pour les Français, ça veut dire que si on passe à 5%, c'est 172 milliards d'euros qu'il va falloir aligner. Donc, ça, c'est d'un point de vue politique. Et puis, d'un point de vue militaire, ces tests de drones, c'est regarder ce que l'on a, tester nos capacités à réagir. Et puis ici, là, tout simplement, à Saint-Nazaire, on est quand même loin de l'Est de l'Europe. C'est-à-dire que effectivement, les chars russes sont pas encore sur les Champs-Élysées, puis il y a quand même très peu de chances qu'ils y arrivent un jour. Mais
on sent quand même le nucléaire encore. Là.
Oui, voilà. Et puis, mais en revanche, un bâtiment qui se perd comme ça dans nos eaux territoriales. Et puis on parle pas véritablement d'un bâtiment là, on parle d'une poubelle flottante.
Ouais.
C'est ça. C'est-à-dire que si demain vous avez une forme de, je sais pas, de marée noire comme ça qui se passe, comment est-ce qu'on réagit? Parce que c'est une attaque sur nos intérêts.
Merci de nous avoir rejoints. Je crois que vous venez avec des informations que vous nous avez envoyées sur ce pétrolier.
Oui, alors il faut savoir que c'est en fait tout un travail qui a été conduit en coopération avec nos alliés, dont les Danois. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et un des éléments clés, c'est le respect du droit maritime international. Et là, on le voit bien, il faut être extrêmement vigilant. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, les Russes vont dire, mais nous, on n'y est pour rien, c'est pas à nous, ce bateau, on le connaît pas. Sauf qu'il est parti d'un port russe. Et donc, il faut impérativement que toutes les étapes judiciaire en quelque sorte soit respecté. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que en fait on a ce bateau a été identifié comme potentiel porteur de drones au Danemark, et que ensuite c'est en arrivant donc en Manche que on l'a interrogé, et c'est en fait sur la contradiction en fait des déclarations faites par le commandant. En gros, en disant que il était sous pavillon béninois, en fait, c'était pas le cas, et ainsi de suite. Et c'est ça ce qui est amené. Donc, le préfet maritime. Alors, il faut bien comprendre que le préfet maritime, il est à Brest. C'est un militaire, c'est un amiral, mais en fait, en quelque sorte, il exerce le rôle de préfet, comme il y a des préfets dans les départements. Et donc, au regard de ces suspicions de fraude, eh bien, il a prévenu le procureur donc de la République à Rennes pour entamer ayant toute une procédure qui fait que ce soir, oui, le bateau, il est à environ une trentaine de kilomètres de Saint-Nazaire.
Alors, il y a deux personnes en garde à vue, mais on imagine aussi que le bateau va être perquisitionné. Qu'est-ce qu'on pourrait y découvrir? Peut-être des drones, on va pas, ou est-ce que les preuves seraient toujours dans le bateau? Quoi d'autre?
Il serait quand même gravement neuneux, les gars, s'ils gardaient leur drone à bord.
La première chose qui a été faite, c'est, et parce qu'il y a au sein des commandos marines, il y avait donc des gendarmes maritimes qui ont la qualification d'officier de police judiciaire, c'est la saisie de tous les documents à bord du navire. Donc ça commence par le livre de bord qui retrace toutes les étapes de la navigation, tous les documents liés à la sécurité du navire, les passeports maritimes de tous les marins pour voir un petit peu s'ils sont marins, les qualifications. Ça, c'est important parce que c'est par là que l'on peut trouver et que l'on va trouver des failles, par exemple, ou dans les documents de sécurité. Ah tiens, ben on va se rendre compte que telle vanne d'incendie n'a pas été vérifiée depuis tant. Et donc, à partir de cette enquête, en quelque sorte, un peu administrative, le procureur prendra sa décision. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un très gros bateau, 244 mètres de long. Alors, comme le dit Didier, trouver un drone, ça serait vraiment un coup de malchance, ou en tout cas... Si, mais par exemple, savoir, dans les marins, y en a-t-il qui ont été débarqués, par exemple, à un moment donné, quelle est leur nationalité, la traçabilité, et c'est ce qui donc est en cours donc à bord du bateau et avec les autorités judiciaires.
Ulysse, est-ce qu'à cette heure, on a une réaction du Kremlin? On sait qu'en général, ils sont assez bavards. Est-ce que là, effectivement, ils disent quelque chose sur cette affaire du pushback de ce bateau pétrolier? Ou est-ce qu'ils se disent non, le
pourquoi bateau... Pourquoi y en aurait-il? Pourquoi le Kremlin réagirait à propos d'un bateau qui ne bat pas pavillon russe? Non, pour l'instant,
Il pourrait dire ce n'est pas du tout à nous, etc.
D'abord, il faut remarquer une chose, les nouvelles concernant la montée à bord d'un commando de marine français, de la marine française, ne datent que de 17h-18h heure de Paris. Il est déjà tard à Moscou. Donc, en fait, il faudra attendre demain matin pour voir si le Kremlin réagit. Mais il va y avoir une réaction plus tard du Kremlin qui a déjà fait savoir que toute tentative d'abattre, par exemple, un avion russe serait pris comme une déclaration de guerre. Si le Kremlin est persuadé, effectivement, que ce qui s'est passé avec ce cargo-là, alors que l'on sait qu'il y a plusieurs centaines de navires fantômes. Le président de la République lui-même a parlé de 800 navires fantômes au total. On parle de 500 à 1000 bateaux. Donc, s'il y avait, je dirais, une répétition de ce type d'action pour vraiment stopper, finalement, le contournement de l'embargo par ces paquebots, alors le Kremlin serait obligé de réagir. Parce que c'est le nerf de la guerre auquel on s'attaque. Cette cargaison-là, elle devait être raffinée en Inde et ensuite donc achetée par l'Inde et revendue et donc financer l'effort de guerre russe. C'est là où ça devient extrêmement sensible pour Moscou, parce que vous vous souvenez que Donald Trump avait reproché aux Européens d'acheter du pétrole russe. Mais ceux qui les achètent le plus, c'est l'Inde, la Russie, la Chine et la Turquie. trois pays. Donc, ce sont trois pays qui sont directement liés à cette affaire et qui observent tout ce qui se passe avec beaucoup d'intérêt. Alors,
faut quand même, faut pas tout mélanger non plus. C'est-à-dire que ce sont des bateaux qui sont civils, commerciaux. Et c'est un contournement d'embargo. Ça n'a rien à voir avec le fait d'abattre un avion russe. Voilà. Donc, encore une fois, on fait respecter le droit international et on défend nos droits territoriaux. Ce qui est très différent. Donc, on peut toujours dire que la Russie devra réagir, mais en fait, il n'y a pas de réaction possible. Puisqu'on est justement dans le cadre du droit. Mmh. Donc, à part arrivé. Comme d'habitude. Et on l'a déjà fait. Donc, c'est.
L'Estonie l'a fait il y a quelques semaines.
Encore une fois, c'est comme d'habitude. Les Russes peuvent toujours dire on va réagir patin couffin pour essayer de nous faire peur. Mais c'est ça qu'ils essayent de faire. Jusqu'à présent, ils essayaient de nous paralyser et de nous empêcher de réagir en essayant justement de mélanger un peu tout. Or, nous, au niveau de l'OTAN, au niveau de la France, avec les Américains, on a décidé de faire un peu ce qu'on appelle le tri des patates, pour faire simple. Hein. Donc, le tri des patates. Mais pourquoi c'est important de le faire? Parce que sinon, justement, on est dans cette espèce de truc où tout bouge et où finalement, l'effet de masse et les Russes nous impressionnent par ça. C'est donc là, on a décidé de faire les choses de manière séparée. Donc, il y a un truc, c'est les frontières de l'OTAN. Pologne, Roumanie, Estonie. Des avions ou des drones militaires. On parle pas des petits drones qui ont survolé le Danemark, hein. On parle de drones militaires Guéran avec 40 kilos de charge, etc. Ou des avions F-31. Là, c'est frontières. Vous passez, on bloque. Et la déclaration du président Emmanuel Macron, qui fait suite à la déclaration du chef d'état-major américain de l'OTAN et de celle de Donald Trump, qui dit maintenant ça suffit. On a changé nos règles d'engagement. On les a assouplis. Si vous continuez à faire les marioles, ça va mal finir. Donc ça, c'est la question de la frontière. L'autre chose qui est les drones danois, les opérations de désinformation, d'influence, etc. Évidemment, les têtes de cochon, etc., etc. Comme ils savent que la frontière va être fermée, eh ben ils vont essayer derrière de grenouiller. Ça faisait partie de cette affaire, le bateau qui vient sur Saint-Nazaire. Et ben là aussi, on leur répond maintenant. On va pas vous répondre d'un point de vue militaire. C'est pas une agression militaire. En revanche, vous voulez jouer? Eh ben on va jouer. C'est important pour vous financièrement. Vous êtes pas dans les clous? On va jouer sur le fait que vous êtes pas dans les clous. On vous bloque votre truc. Et comme vous avez justement pour le coup 70% de pétrole qui passe par là, on va voir qui c'est qui va gagner à ce jeu d'imbéciles. Et c'est je te tiens, tu me tuais par la barbichette. Et on a raison de réagir parce que l'idée qu'on a et que aujourd'hui ont compris les Européens et les Américains, c'est que plus on le laisse faire, plus il prend de l'assurance. Et que quand il se prend un petit coup sur le groin, ben ça le calme en fait.
Edwige. Non, ce qu'il faut voir, c'est quand même une prise de guerre qui est importante parce qu'il y a une cargaison. Je ne sais pas exactement le montant de cette cargaison, mais en tous les cas, c'est une prise de guerre importante. Et comme l'a dit tout à l'heure Ulysse, ça fait partie de cette flotte, cette énorme flotte fantôme qui permet de financer l'économie de guerre russe. Parce qu'il faut quand même voir que l'économie russe, elle est à terre. Et que pour l'instant, la moitié de l'économie russe est tournée pour financer cette guerre. Et comment est-elle financée? Elle est financée justement par toutes ces cargaisons de vaisseaux fantômes qui partent un peu dans toutes les directions, notamment en Inde, en Chine, comme on disait tout à l'heure. Donc c'est aussi un point névralgique, là, sur le plan financier et le financement de la guerre en Russie. C'est pour ça que c'est aussi important.
Il y a des dizaines de milliards d'euros qui financent donc 40% de l'effort de guerre russe. Bruno, je dis, ça arrive à un moment donné où les Européens sont réunis pour un conseil de défense. Alors, il va y avoir des déclarations. Là, il y a déjà la première ministre danoise qui dit, effectivement, on demande une réponse très forte face à la guerre hybride. Est-ce que vous pensez que ça pourrait accoucher d'autres prises de décision, de renforcement d'une doctrine, enfin de quelque chose de plus clair à l'unisson?
Là, ça vient d'être dit, un peu décrit par Didier. Ce qui se passe, c'est que chacun des pays membres de l'OTAN va s'aligner un peu sur les positions qui ont été affichées, tant par les Polonais que par les Français aujourd'hui, les Estoniens hier.
Et même ceux qui étaient un petit peu plus frileux, comme les Italiens,
on verra quand ils seront testés à leur tour. Voilà. Ça a dû déjà être le cas. mais en tous les cas, maintenant, c'est l'idée que on sait ce que vous faites. C'est le message qui est passé aux Russes, aux autorités russes. On sait ce que vous faites. On vous voit. On ne vous laisse plus faire. C'est le message qui est envoyé ce soir par la France, mais les Polonais, les Estoniens l'ont fait, et ça va de plus en plus être le cas. Et tout ça s'aligne aussi derrière la position finalement de Donald Trump, qui lui-même a été encore plus loin, puisqu'il a dit, quand il a été interrogé, oui, il faut abattre l'avion, ou les avions, je ne sais plus comment il s'est exprimé. Donc tout ça...
Rien n'est exclu en termes de riposte si un avion russe viole l'espace aérien.
On ne laisse plus rien passer. Nous sommes en confrontation avec la Russie, on ne peut pas être plus clair que ce qu'a dit le président de la République ce soir, qui lui-même n'a jamais été naïf, mais jusqu'à présent, en tous les cas, de manière, j'allais dire, publique et spectaculaire, ça n'avait jamais été aussi bien affiché qu'aujourd'hui. Ça fait suite aussi aux nombreux tests pour essayer de faire peur à l'opinion. Toutes les opérations, tête de cochon, étoile de David, cercueil devant aux Invalides il y a quelques mois, tout ce qui est fait pour essayer de faire flancher l'opinion, que l'opinion en ait marre que la France soit derrière l'Ukraine, que la France finance et aide l'Ukraine. Tout ça est fait pour ça. Pour l'instant, ça ne marche pas. L'opinion tient, mais enfin, on voit bien que Vladimir Poutine redouble de ruse pour essayer de nous... Et en plus, il le fait aussi avec une partie, et ça, c'est important, la guerre informationnelle, une partie de certains médias français qui, eux, prennent souvent fait et cause pour le régime russe, avec des journalistes et des représentants russes sur leur plateau, des représentants russes dans certains médias, et ça, ce n'est pas rien. Il y a une part d'anti-France aussi qui existe, et ça, il faut lutter contre.
Bien sûr. Mais vous disiez, Ulysse, tout à l'heure, effectivement, peut-être que Vladimir Poutine va perdre son jeu de poker. Justement, il a essayé de tester un peu tous les pays et finalement, il se révèle très uni. Mais est-ce que, à l'inverse, on ne peut pas se dire que nous allons tomber dans son piège? C'est-à-dire qu'à force de nous tester, eh bien, effectivement, on va se renforcer et peut-être aller en guerre avec la Russie. Est-ce que c'est pas ça qu'il attend aussi?
C'est le piège tendu par Poutine. Mais pour l'instant, son pari est perdu. Et quand on voit la réaction collective des Européens, on comprend bien que la désinformation et la fameuse guerre hybride qu'il va continuer à mener, hein, ça, il faut pas se faire d'illusions. Il va aller jusqu'au bout. Il a toujours ce rêve impérial et il veut absolument déstabiliser l'Europe, mais surtout reconquérir l'Ukraine. Il ne va pas s'arrêter. Le drame dans cette affaire, c'est que on voit là qu'il est mis en échec et qu'il le sera de plus en plus, mais que la guerre va continuer et que on ne peut pas l'arrêter. C'est l'échec de Trump à Anchorage qui avait voulu organiser un meeting, un rendez-vous entre Poutine et Zelensky, l'Ukrainien. Poutine le refuse, donc la guerre continue. Mais je crois aussi que derrière cet arrière-plan général qui a bien été décrit ce soir, il y a aussi le tournant de Trump sur l'Ukraine. Trump, visiblement, lorsqu'il parle du tigre de papier en parlant de Poutine, il finalement rejoint les analyses des généraux ici autour de la table. Poutine est en difficulté sur la guerre et il le sera d'autant plus que Trump décide de fournir des armements aux Ukrainiens, fournir des renseignements aux Ukrainiens avec des satellites, avec les réseaux Starlink, etc., qui leur permettent de continuer la guerre et de résister. Et faute de victoire de l'Ukraine, on est dans une certaine mesure face à une victoire face à la Russie. Et donc ce contexte est très intéressant parce que c'est au fond un tournant. Et les Européens, aujourd'hui réunis à Copenhague, parce qu'il faut revenir au cœur de ce qui se passe en Europe, ont bien montré qu'ils étaient déterminés. Il y a eu les déclarations du président français, certes, mais il y a aussi la première ministre du Danemark, le président polonais, les Allemands aussi. Le changement d'attitude de l'Allemagne est absolument remarquable. Parce que l'Allemagne pourra fournir des armes à longue portée qui seront extrêmement utiles pour les Ukrainiens. Donc on est dans un basculement très important.
Un tout petit point, juste pour répondre un peu à votre question. Il faut pas... Poutine veut nous faire peur en faisant croire qu'il nous forcerait à rentrer en guerre avec lui. Mais il veut pas rentrer en guerre avec nous. Il a déjà du mal avec l'Ukraine. Vous croyez qu'il va se taper tout l'OTAN? 50% du PIB mondial quand la Russie a 3% du PIB mondial. En termes conventionnels. Et, comme l'ont rappelé dernièrement les Américains, etc., nous aussi on a une puissance nucléaire. Les Britanniques le sont, les Américains le sont aussi. Donc attention, faut pas avoir peur en permanence de ça. Parce que c'est ça. Sinon, ça, évidemment, à ce moment-là, on lui dit, bah voilà, il faut aller les clés de la baraque, installe-toi, il y a du café dans le machin. Donc, en fait, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. On sait qu'à chaque fois qu'il y a eu des tests, on a eu, au moment du G20, le fameux le missile qui était tombé en Pologne. Je peux vous dire que sur les canaux de déconfliction, les Russes étaient tout de suite là en disant mais c'est pas nous, vous inquiétez pas, faites pas l'article 5. Quand ils ont abattu le drone MK9 américain au-dessus de la mer, ça a tout de suite réouvert en disant oh là là, on s'excuse. Donc ils sont pas totalement neuneux non plus, hein.
Et justement, et c'est cette phase de test permanent qui en réalité permet de justifier deux choses. D'abord, le fait de poursuivre la guerre à tout prix en Ukraine et de limiter en réalité les efforts des Européens et de l'OTAN. Et en fait, ce que l'on voit ici, c'est quand même un alignement, ce qui est quand même assez formidable, entre l'OTAN et l'Union européenne. C'est quelque chose qu'on voit rarement.
L'OTAN version Europe.
Je crois que c'est le pilier européen, l'OTAN.
À aucun moment, depuis plusieurs jours, on ne parle des États-Unis. Tout ce qui se fait aujourd'hui se fait effectivement dans ce pilier européen de l'OTAN. Et la France, en quelque sorte, a pris un leadership réel. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que on est en train de peut-être de couper le cordon ombilical
arrimer les Américains aux efforts de l'Union européenne et c'est en train de fonctionner si Trump ne change pas encore d'avis.
Oui, ça c'est sûr. Non, juste un tout petit point. Je suis sûre qu'il y a des milliers de Français qui nous regardent là en ce moment. Parce que là, sur le plan de la guerre psychologique dont parlait tout à l'heure Bruno Jeudy, c'est sûr que le fait d'avoir ce bateau russe qui est là, je suis sûre que du coup, ça va mobiliser un peu, ça va remobiliser les Français par rapport à ce conflit.
Ou au contraire, créer justement...
Oui, mais si on le fait trop, justement,
c'est de montrer en fait les limites de l'exercice. C'est une opération qu'on est capable de contrôler et qui ne nous fait pas peur. Justement, c'est-à-dire que le pire de nos adversaires, c'est un peu la phrase de Kennedy, hein, n'ayez pas peur, sinon de la peur elle-même. Et justement là, on maîtrise deux choses. On maîtrise déjà, le droit international. Nous, on le respecte. Ouais. Eux, non. Voilà. Donc, en fait, on a deux avantages. On a l'avantage moral, d'un certain côté, puisqu'on respecte, nous, les règles. Et ça, c'est important. Et puis, surtout, on a un deuxième avantage. On se tient dans la position de celui qui n'est pas l'agresseur. Et c'est extrêmement important de ne pas tomber dans le jeu de Moscou, de monter dans une forme, justement, d'agressivité. C'est pour ça que même quand on dit qu'on va changer les règles d'engagement, il n'y a pas marqué quand même qu'on va abattre les avions. Et ce qui est intéressant quand on regarde ce que dit le président, c'est on met, justement...
Rien n'est exclu.
Et justement, on reste dans l'ambiguïté.
Bien sûr, c'est
l'incertitude. C'est pour la défense de nos frontières. Et nous, voilà, on ne dit pas qu'on va agresser qui que ce soit.
Mais général, même si la doctrine avait changé, si dans le huis clos du secret au Danemark, les chefs de l'État européens, on ne le ferait pas en déclaration. Non, c'est quelque chose. J'imagine que on ne donne pas sa stratégie militaire, non. Si on va abattre un avion, bien sûr, exactement.
Voilà. Donc c'est cette ambiguïté stratégique que le président de la République a exprimée à de nombreuses reprises et qui est également repris finalement par nos partenaires européens. Et donc, par contre, il faut être capable à côté de montrer qu'on a les capacités. C'est un élément qui est important. C'était la projection de 3 rafales il y a quelques jours en Pologne. C'est cette démonstration aujourd'hui. Et donc, ça aussi, c'est extrêmement important. Les hélicoptères, être pour montrer notre détermination. C'est pas nous qui voulons la guerre, c'est Poutine qui nous impose cette épreuve. Eh bien, nous sommes capables
Dernière
de répondre.
Dernière question avant de fermer cette page, général. Donc, je rappelle que 2 hommes sont en garde à vue. A priori, il s'agit donc du commandant de ce navire de pétrolier de la flotte russe. Qu'est-ce qui peut se passer? Ils vont les garder combien de temps? Et si jamais on trouve, effectivement, qu'il y avait mauvaise affaire, que peut-il se passer?
Alors, c'est le commandant et son second. Donc, ce sont des officiers de marine marchande. Ils sont en garde à vue. Donc, en fait, on va procéder à un certain nombre de vérifications, par exemple, leur nationalité, leur qualification, pour trouver peut-être un biais, par exemple, pour dire, vous n'avez pas les qualifications nécessaires. Ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Ensuite, en fonction de ce qui sera déterminé, le bateau pourrait être effectivement obligé de gagner, on peut penser à Saint-Nazaire. Là, il y a d'une part l'équipage. Alors l'équipage, s'il n'y a pas de poursuite, après, il faut qu'ils rentrent dans leur pays. Ça devient compliqué parce que c'est normalement à charge de l'armateur. Et puis, le commandant et le second, ils peuvent être mis en examen.
Il peut y avoir un procès et un jugement. Et la peine maximum, c'est 1 an de prison pour le capitaine et 150 000 euros d'amende pour l'armateur.
Merci, général Pélistrandi.